bonjour, et bien nous nous retrouvons pour l'émission Bienvenue en Europe, et puis c'est notre dernière émission de l'année, alors nous allons voir si nous allons terminer sur une bonne note, en tout cas, bref. Dernier Conseil européen de jeudi, vendredi, qu'en est-il ?
Oui, bonjour Raymond, je peux vous dire que la fin de l'année a été conduite sur les chapeaux de roue, pour parler un langage très...
Que nos auditeurs comprennent tous, bien évidemment.
Et effectivement, il y avait un ordre du jour qui était vraiment
lourd,
très chargé,
oui.
Au niveau du Conseil européen, le dernier de l'année. Il s'est déroulé durant les journées de jeudi 14 décembre et vendredi 15 décembre. La première journée a été consacrée à toute une série de points à l'ordre du jour, et la deuxième journée essentiellement à l'affaire du retrait britannique,
oui,
de l'Union européenne.
Faire des British. Est-ce
et
qu'on
puis
va les mettre
avec
dehors,
également un sommet à part, un sommet spécial pour la zone euro. Alors en ce qui concerne la première journée du 14 décembre, il y avait trois points principaux à l'ordre du jour. Et le premier, c'était la sécurité et la défense. Là, il y a beaucoup d'avancées qui ont été faites, qui ont été déjà préparé lors du Conseil de ministres antérieur, mais l'ensemble a été confirmé puisque, comme chacun sait, le Conseil européen est constitué des chefs d'État et de gouvernement, mais les préparatifs se font au niveau ministériel et évidemment en liaison avec la Commission européenne d'un côté et le Parlement européen de l'autre. Alors en ce qui concerne la sécurité et la défense, il y a donc une confirmation de la coopération de cette structure, de coopération structurée permanente. Entre,
ça, c'est positif.
Et c'est tout à fait positif. Donc on se place vraiment dans la perspective de la constitution d'une armée européenne. Armée européenne, rappelons-le, qui dans le passé avait conduit c'était traduit par un échec en 1954. Et maintenant, on est engagé sur de nouvelles voies. Donc il y a cette structure qui est mise en place, et il s'agit de faire aboutir des plans nationaux. Donc cela va se passer par étapes, et la finalisation de l'ensemble devrait être l'occasion d'être confirmée en juin 2018. Il y a notamment, on peut quand même le citer, la mise en place d'un fonds européen de la défense, qui sera dès 2018, l'année prochaine, mise en place avec un programme européen de développement industriel, toujours dans le domaine de la défense, bien sûr. Il s'agit de mutualiser les efforts des États membres. Il y a tout un mécanisme également qui est mis en place de financement pour des missions et des coopérations militaires,
oui, donc
pour l'ensemble
l'Union
des pays, avec l'Union européenne. Donc il y a 25 pays qui en font partie. Donc vous avez les 28, si vous voulez, à l'heure actuelle, moins le Royaume-Uni, moins Malte et le dernier pays m'échappe, mais c'est
c'est
le Danemark qui, d'accord, lui avait un statut, a toujours eu un statut un peu à part dans l'Union européenne. Donc il y a 25 pays qui s'engagent dans cette affaire-là, et également en coordination avec l'OTAN. Donc il y a à la fois des renforcements des capacités proprement militaires et de sécurité, mais également des liaisons qui sont faites avec l'OTAN pour également rassurer en quelque sorte les pays de l'Est de l'Union européenne qui restent très attachés à cette dimension-là. Donc voilà ce premier volet. Un deuxième volet, dimension sociale, éducation, culture. La dimension sociale fait traditionnellement pas partie des compétences de l'Union européenne, mais depuis un certain temps, de plus en plus de sujets sont mis sur la table des États membres, et en particulier en ce qui concerne la dimension, les droits sociaux, ceci pour essayer d'éviter des concurrences déloyales entre les différents États. Il s'agit de placer, comme l'a rappelé le Conseil européen, les citoyens au centre des préoccupations européennes. Et donc il y a un socle européen des droits sociaux qui doit être mis en œuvre. avec un dialogue social à tous les niveaux, un programme de travail pour 2018 qui va être appliqué. Et donc également, on essaie de faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'écart entre les rémunérations entre les femmes et les hommes pour essayer de mettre au niveau européen ceci sur le devant de la scène. Il y a un renforcement des compétences, notamment des personnes, en ce qui concerne certaines recommandations que le Conseil a tenues dans des réunions antérieures. Enfin, il y a un ensemble de mesures qui sont quand même intéressantes à souligner et qui devraient être complétées en mars 2018 au niveau du suivi de ces engagements que les chefs d'État ont pris, les chefs d'État et de gouvernement. Parallèlement, encore pour finir ce volet, indépendamment du volet social, il y a toute une dimension éducation et culture. Et là, il s'agit d'intensifier la mobilité et les échanges au sein notamment du programme Erasmus+. Il y a renforcement des moyens budgétaires en faveur d'Erasmus. Il y a l'engagement de développer une vingtaine d'universités européennes. Là, c'est la reprise de propositions de la France par la voix de son président Macron. Il y a toute une série d'éléments qui sont mis en avant, comme le renforcement de l'apprentissage des langues, la mise en place d'une carte d'étudiants européennes, une reconnaissance mutuelle des titres de diplôme d'enseignement supérieur et également au niveau secondaire. Et parallèlement pour la culture, de faire une année européenne du patrimoine culturel pour sensibiliser davantage à cette dimension-là.
Alors ça, on voit ça par en haut. Alors disons que cette semaine, j'ai eu la chance d'aller dans un établissement agricole à Annette où des enseignants sont partis pendant leurs vacances en stage pour prévoir que toutes les sections de l'établissement pourront participer à ces mobilités européennes et pourront envoyer leurs élèves de terminale en stage dans un autre pays européen. Alors, ce qui se faisait déjà pour deux sections, maintenant se fait pour la troisième section. Et donc, c'est dans l'établissement tous les élèves qui vont en stage. Et j'ai rencontré leurs professeurs, parce que les professeurs se sont dit, notamment celui qui concernait les services à la personne, a fait un stage. À la fois un stage linguistique, il ne s'agit pas simplement d'aller faire du tourisme, mais il s'agit vraiment d'être opérationnel dans ces stages. Donc des enseignants se sont prêtés en disant « nos élèves y vont, il faut qu'on puisse d'une part les suivre ». Et je trouvais intéressant de voir que ces deux enseignants, dans des domaines extrêmement différents, service à la personne ou domaine artistique, revenaient en étant enthousiastes et en disant « mais vraiment, c'est une chance de pouvoir emmener nos élèves dans des pays différents, mais aussi c'est une chance pour nous-mêmes ». Donc, je crois que ça n'est pas simplement quelque chose qui concerne les structures, mais c'est quelque chose aussi qui concerne la réalité, donc des enfants. Et si vous êtes grands-parents d'enfants qui sont en âge d'être étudiants ou parents d'enfants étudiants, eh bien, poussez-les à utiliser ces dispositifs Erasmus qui sont véritablement pour tout le monde. Il n'y a pas de sélection, donc c'est vraiment une chance de s'ouvrir à une autre culture et puis une chance aussi d'apprendre une autre langue. Donc, tout bénéfice. Et les gens qui ont tenté l'expérience reviennent tous en étant enthousiaste.
Vous avez tout à fait raison de souligner cette dimension-là. Oui, voilà. C'est une dimension humaine. Alors, on voit trop l'Europe sur un plan technique et on oublie que cette dimension humaine, dans un même continent, avec nos différentes langues, on a quand même une culture qui est tout à fait similaire, avec des rapprochements absolument extraordinaires. Et ceci mérite d'être perçu directement, concrètement, beaucoup de monde, parce que, comme on peut aussi le constater, notre propre culture européenne, on la voit d'ailleurs en voyageant, même mieux une fois qu'on est un peu à l'extérieur de cette Union européenne, et l'Europe et l'unité de l'Europe, notamment au plan culturel, font des envieux, et on se rend mieux compte de son utilité et de sa nécessité.
En tout cas, là, je peux vous dire que Véronique et Christelle, puisque tels sont leurs prénoms, étaient enthousiastes. Et d'ailleurs, Chers auditeurs, ne ratez pas l'émission Éducation en question où vous entendrez les témoignages de ces deux enseignantes. Un peu de pub pour Radio Grand Ciel et puis une pause peut-être. Toujours sur Radio Grand Ciel, dans l'émission Bienvenue en Europe. Alors après l'aspect positif, c'est Noël, n'est-ce pas? Donc, fêtons l'Europe aussi. La question des migrations, elle fâche un peu.
Oui, alors au Conseil européen, la question des migrations est venue sur la table. Et il y a eu un débat houleux selon ceux qui ont pu y assister. Et on peut dire... Franchement, qu'il n'y a pas eu, il y a beaucoup de difficultés. Il y a toute une partie, notamment des pays dits de Visegrad, qui font partie de l'Est européen, avec la Pologne, la Hongrie en tête, qui sont farouchement contre toute réception de migrants sur leur territoire. Alors la Commission européenne, au départ, avait proposé, c'était en 2015, si je ne me trompe, des quotas par pays et chacun devait donc recevoir un certain nombre de réfugiés.
Sauf qu'il faut tenir compte de ce que les gens veulent.
Et puis cela n'a pas marché et les Hongrois en particulier ont créé même un véritable mur pour empêcher toute possibilité de passage sur leurs frontières. Donc la Commission est venue avec des propositions sur la table du Conseil européen, où il ne s'agit plus maintenant de proposer des quotas en tant que tels fermes et définitifs, mais de dire que ces quotas ne pourraient intervenir qu'en cas de vraiment d'extrême solution lorsqu'on n'a pas pu faire autrement et qu'il y a un afflux
donc
absolument en cas de crise. Donc ils essaient de proposer une certaine souplesse, mais il n'y a toujours pas d'accord. Alors évidemment, il y a des fonds européens qui sont mis en avant pour essayer de développer toute une série d'actions, tant de manière interne pour venir en aide notamment aux réfugiés et en améliorant le droit d'asile, avec aussi la révision de l'accord de Dublin, je ne vais pas rentrer dans les détails, et puis également à l'extérieur, développer, renforcer tous les partenariats avec les pays d'où proviennent les migrants pour faire en sorte que cela reste sur place.
Donc on voit là que ça n'est pas quelque chose de bloqué, mais qu'il y a des évolutions possibles dans un sens positif pour permettre aux gens plus de fonctionner en fonction de leurs propres désirs. Donc plus de souplesse de part et d'autre, ça c'est une bonne chose. Et puis du côté du Brexit,
alors le Conseil européen,
où ça en est ?
Le Brexit suit son cours dans la mesure où en fin d'année, on a vu qu'il y avait eu un certain nombre de progrès qui ont été faits. Il y avait une première étape. La première étape, il fallait faire en sorte qu'il y ait un accord sur le droit des citoyens, qu'ils soient du côté britannique ou européen, continental, pour qu'ils puissent circuler et s'établir d'un côté ou de l'autre de la Manche, comme auparavant. Il y avait la facture par le Royaume-Uni pour rembourser les engagements qu'elle avait pris et qui se chiffrent autour de 50 milliards. Et il y avait enfin la question de la frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande au Sud.
Donc ça, c'est réglé,
ces trois domaines ont été... Il y a eu des engagements du gouvernement britannique, non chiffrés et non, il est vrai, détaillés à ce stade, mais le Conseil européen a considéré qu'il y avait quand même un progrès et qui permettait dès l'année prochaine, 2018, de lancer la deuxième phase des négociations. Et cette deuxième phase va consister à aborder toute la dimension commerciale. Alors, il est clair que cette négociation risque d'être extrêmement difficile parce qu'il y a tellement de sujets à mettre à l'ordre du jour.
Puis en Angleterre, je crois qu'on a pris une législation très restrictive,
ensuite,
justement.
Et ensuite, il y a le Parlement britannique qui veut avoir le dernier mot. Donc, on verra comment tout cela va se développer. Il y a une demande également d'une période de 2 ans supplémentaire transitoire, mais les États, les 27, ont été très fermes vis-à-vis des Britanniques en disant d'accord, mais à ce moment-là, vous ne participerez plus aux décisions. En revanche, le droit européen continuera à s'appliquer dans toutes ses dimensions. Donc la balle maintenant est dans le camp des négociateurs. C'est Michel Barnier, le négociateur du côté européen, français, ancien commissaire européen, qui a la charge de poursuivre les discussions. Donc on verra ça l'année prochaine.
Et alors pour la zone euro et le prix Charlemagne, parce qu'on va terminer sur
alors,
le cocorico.
La zone euro, il n'y a pas, il y a simplement à noter qu'il y a la poursuite l'engagement d'aller de l'avant sur base en particulier des propositions de la Commission, mais qui sont loin de rejoindre les propositions de la France. Donc on verra comment cela se passera l'année prochaine. D'ores et déjà, il y a un changement de présidence de la zone euro. C'est un Portugais qui prend la succession d'un Hollandais. Et ce Portugais a reçu l'aval, c'est ministre des Finances portugais, qui est M. Mario Centeno, qui a reçu l'aval, l'appui de la France et de l'Allemagne. Et cela a emporté le vote des États membres. S'agissant d'autres problèmes que la zone euro, citons simplement le prix Charlemagne, vous venez de l'évoquer. Il est attribué chaque année à quelqu'un qui a marqué son temps dans l'année pour la construction européenne. Et ce prix a été attribué à notre président Macron. Et le prix sera délivré officiellement le 10 mai 2018.
Ben alors voilà, nous quittons cette
émission. Alors voilà une bonne nouvelle pour terminer l'année.
Voilà.
L'Europe, plus que jamais, reste au devant de la scène. Et effectivement, on a pu noter qu'avec l'année qui se finit, les avancées en ce qui concerne l'intégration sont de plus en plus sur la table et se concrétisent.
Eh bien voilà, donc on va dire bonne fête à l'Europe et bravo Monsieur Macron pour ce prix Charlemagne. Félicitations et à nous. Eh bien on vous dit bonne fin d'année. Profitez bien de ces temps de fête et à l'année prochaine. Of all
joy.